Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2020 et c'est le journal radiophonique amplifié numéro 60. Aujourd'hui au programme, on va parler de l'actualité nationale, internationale, de prison, de LPPR, de mobilisation, mais aussi de coronavirus. C'est un programme tout aussi enthousiasmant que riche et passionnant. Et il y a toute l'équipe du JRA aujourd'hui pour vous décrypter toute cette actualité qui est mixée, égalisée et bien sûr amplifiée. On commence tout de suite avec le national et notamment le rapport sur le mal-logement qui vient de sortir, Nicolas.
La Fondation Abbé Pierre publie un rapport sur le mal-logement entre 2004 et 2019. Les chiffres ont plus que doublé et c'est environ 16 500 personnes qui ont été expulsées par la force en France en 2019. Ils ont rejoint d'autres dans la rue pour être au total 143 000 personnes sans logement en 2019. La formation pointe du doigt la montée des loyers, l'absence de logements sociaux et plus généralement les politiques néantes en ce qui concerne les politiques plus précisément du logement. Alors que des appartements s'effondrent d'insalubrité, que le plafonnement des loyers à échelle communale est combattu par le gouvernement et que l'on attend des constructions d'HLM par incitation et allègements fiscaux, c'est aujourd'hui plus de 4 millions de Français qui vivent dans des critères de mal-logement en France.
Merci Nicolas. Et on fait tout de suite le point sur la mobilisation contre la réforme des retraites.
Et le Conseil d'État a publié récemment un petit rapport, 1029 pages tout de même, qui évalue les conséquences du projet de réforme des retraites. Et ce rapport fait tout sauf dans la tendresse à l'égard du gouvernement, projections financières lacunaires, conformité aux droits insuffisantes et demande d'une meilleure évaluation des situations individuelles des assurés et des employés. L'exécutif qui s'attendait à plus de soutien de la part du Conseil d'État s'est notamment exprimé par l'intermédiaire d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui a déclaré « J'aurais préféré un autre avis du Conseil d'État ». En attendant, pour un projet dans les tuyaux du gouvernement depuis 18 mois, une telle accusation d'amateurisme a de quoi surprendre.
Et en parlant d'amateurisme, Rémi va nous parler de la LPPR.
Et oui, dans l'enseignement supérieur et la recherche, la protestation contre le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche s'intensifie. Depuis le mois de janvier, des dizaines de laboratoires du FR de Revue ont déclaré leur opposition à ce projet, dont les rapports préparatoires prévoient, entre autres, l'ouverture de postes précaires comme alternative au statut de maître de conf ou de chargé de recherche, l'application du CDI de projet dans la recherche, le retour de la modulation de service et la fin du volume statutaire de 192 heures d'enseignement des enseignants-chercheurs, qui pourront ainsi être majoritairement enseignants ou bien chercheurs, et puis l'amplification des logiques d'évaluation quantitative dans la recherche. La semaine dernière, plusieurs milliers de chercheurs ont ainsi collectivement candidaté à la présidence du HCRS, l'instance chargée de l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour manifester leur volonté d'une reprise en main de la recherche par ceux qui la font. Les annonces de la ministre Frédérique Vidal lors de ses vœux le 21 janvier, consistant entre autres à proposer de financer une revalorisation des salaires à l'embauche dans la recherche sur les économies prévues par la réforme des retraites, n'ont pas convaincu pour l'instant. Et plusieurs comités d'évaluation des laboratoires démissionnent actuellement. Des motions pleuvent toujours, y compris à l'ENS où plusieurs départements se mobilisent et où les délégués de formation ont pris une motion annonçant leurs inquiétudes cet après-midi même. Une coordination nationale, enfin, continuera d'organiser la lutte samedi et dimanche à Saint-Denis. Un dossier à suivre de près, donc, car sous cette réforme technique se cachent des évolutions profondes des métiers auxquels nombre d'entre nous se destinent.
Et il n'y a pas que dans l'enseignement supérieur que les professeurs sont mobilisés. Phileas, tu nous en parles un peu plus.
Alors oui, cette semaine se sont déroulées les premières épreuves du baccalauréat, de la nouvelle réforme. Ces dernières auraient été boycottées par de nombreux professeurs. Partout en France, des épreuves ont dû être reportées, des convocations officielles réimprimées, et ces épreuves sont donc décalées jusqu'à des dates pas encore fixées. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, regrette que des professeurs de Lyon aient jeté des manuels scolaires au rectorat de cette ville, ces derniers considérant que ces manuels étaient désormais périmés et non conformes aux nouveaux programmes. Par ailleurs, le hashtag « Je suis 0,1% » a été utilisé par nombre des professeurs pour exprimer leur désaccord vis-à-vis de cette réforme, car le ministre aurait déclaré que 99% des enseignants étaient d'accord avec la réforme du bac, alors qu'en réalité, il semble avoir dit que 99% des enseignants étaient d'accord avec un des propos qu'il avait exprimé vis-à-vis de ce qu'est l'éducation pour un professeur.
Et on parle aussi de pesticides dans les actualités nationales aujourd'hui, puisque le Monde a remis la question du lobbying intense des entreprises de production de pesticides sur la table. Le Quotidien a en effet divulgué des échanges entre le chef du cabinet du président de la République et du directeur du site de Montreuil-Bellay de la cité Fit Europe, ainsi qu'entre Bruno Le Maire et le patron de Syngenta-France. Ces échanges montrent d'intenses pratiques de lobbying, notamment contre la loi sur l'alimentation, dite loi Egalim de 2018, dont l'article 83 prévoit l'interdiction à partir de 2022 de la production, du stockage et de la circulation de produits phytopharmaceutiques qui sont interdits en Europe car ils sont des perturbateurs endocriniens et cancérogènes, mais ils sont vendus à l'étranger et notamment en Afrique et en Amérique latine. L'UIPP, l'Union de l'industrie de la protection des plantes, a alors déposé une question prioritaire de constitutionnalité contre cet article. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision demain pour savoir s'il s'agit d'une atteinte à la liberté d'entreprendre qui est protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et on passe à l'international maintenant, avec des nouvelles des procédures judiciaires engagées contre des journalistes du site Disclose de Radio France et du Quotidien sur TMC. Ces derniers avaient été convoqués par la DGSI après avoir révélé le rôle des armes vendues par la France à l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dans le conflit qui se déroule au Yémen depuis 2015. Ce conflit a fait déjà des dizaines de milliers de morts. Le ministre des Armées avait porté plainte contre les médias car une note classée confidentielle défense leur avait été transmise en décembre 2018. Le parquet de Paris avait alors ouvert une enquête pour compromission du secret de la défense nationale. Hier, il a fait savoir sa décision de ne pas poursuivre pénalement les journalistes, mais le procureur de la République a toutefois souligné que cette procédure constituerait un antécédent judiciaire et leur a notifié un rappel à la loi. Un geste ambigu, donc, entre classement de l'affaire et intimidation de journalistes. Et tout de suite, on fait le point sur le conflit israélo-palestinien avec toi, Nathan.
Alors oui, puisqu'il y a des nouveautés, Donald Trump a présenté mardi 28 janvier sa vision d'une paix israélo-palestinienne aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Alors, la vision, ou plutôt le plan du chef de la Maison-Blanche s'aligne en tout point sur les exigences israéliennes, et valide l'annexion des territoires palestiniens en dépit des résolutions de l'ONU. En bref, la vallée du Jourdain est reconnue comme une frontière orientale essentielle à la sécurité d'Israël, la capacité de l'armée à se déployer rapidement dans tous les territoires palestiniens est assurée, les conquêtes de la guerre de 1967 avec ses voisins arabes sont largement maintenues, et l'autorité palestinienne se voit rappeler que le temps joue dramatiquement contre elle. Jérusalem deviendrait donc la capitale invisible et libérée d'Israël, et les Palestiniens devraient se contenter à l'est des faubourgs hors de la ville. Un État palestinien serait donc créé, amputé de 30% de son territoire de 1967, et au prix de très importantes concessions. Pour le Figaro, cela consiste à en faire voler en éclats les paramètres du conflit israélo-palestinien. Et ceci bien que mercredi soir, les sondages en Israël n'indiquaient aucune poussée de la coalition de droite israélienne, et l'annexion ne demeurait soutenue que par une minorité. Une solution donc qui ne fait pas l'unanimité, puisque pour l'Orient le jour, l'administration américaine ne vise pas la paix, mais va enterrer l'idée d'une solution à deux États et faire passer les Palestiniens pour d'éternels terroristes.
Merci Nathan. Et c'est tout pour le journal d'aujourd'hui, du 30 janvier 2020. Il est 20h11, il est l'heure de passer au billet d'ici avec Nicolas, qui nous fait plonger dans les municipales de Lyon, avec notamment une interview, je crois, que tu as préparée pour nous.
Oui, une petite interview que j'ai préparée avec, je laisse le suspense entier. C'est moi, mais je vais commencer ma petite chronique.
Et le mouvement Nuit Debout se poursuit.
C'est une fasciste et réactionnaire.
C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés, il sera mon invité en direct.
Toi, Le normalien oscillant entre concerts de fanfare électro au hall du Faubourg, bière à prix parisien autour de Saxe-Gambetta et départ de manif à la manufacture des tabacs une fois de temps en temps parce que quand même tu veux montrer aux autres que t'es vraiment de gauche. Toi qui habites la résidence Bonamour, never forget Jacqueline, toi qui te nourris presque exclusivement de fougasses de chez Hénon et ne manque pas de pester contre les trottinettes électriques qui bloquent ton passage sur l'avenue Jean Jaurès, j'ai une nouvelle pour toi. Tu es membre du grand club des habitantes et habitants du 7e arrondissement de Lyon. Du coup, savais-tu qu'il y avait des élections municipales et métropolitaines chez nous dans moins de 2 mois ? Oui, oui, oui. Ça tombe bien, moi aussi j'ai développé une phobie du vote, surtout quand il est utile depuis mai 2017. Mais bon, je me suis quand même essayé un exercice périlleux, qui est celui de consulter les programmes des candidates et candidats à la course à la mairie du 7e. Périlleux parce que déjà, les grands candidats n'ont pas publié pour l'instant de programme à l'échelle locale, à l'échelle de l'arrondissement. Même combat pour Lyon pour tous, Lyon en commun, pour l'amour de Lyon, et même vivons vraiment Lyon. Vous avez vu, j'ai volontairement occulté le nom des listes pour que vous vous rendiez compte d'à quel point la tambouille est tambouillesque, et j'ai même caché dans le tas le nom de la liste FN, bonne chance. En somme, c'est une situation un poil complexe pour quiconque veut sortir son épingle du jeu dans un arrondissement qui s'étend du quartier de la Guillotière, dont le prix moyen de l'immobilier a bondi de 65% en 10 ans, du jamais vu, jusqu'à l'ancienne zone industrielle de Gerland, dont la densification à grande vitesse peut poser quelques questions, même aux moins avisés d'entre nous. J'ai eu donc l'occasion d'interroger Laurent Bozetti, tête de liste Lyon en commun, liste au programme rouge-vert mais quand même réformiste, soutenue par la France Insoumise, Ensemble, le GRAM, groupe de réflexion et d'action métropolitaine de Nathalie Perrin-Gilbert, et la gauche républicaine et socialiste, à ce propos.
Et par exemple, dans le cas de la zone de Gerland, qui est constamment le sujet quand même du financement de cette croissance urbaine, qu'avez-vous à répondre à ceux qui disent « mais on peut rien faire, de toute façon c'est une ancienne zone portuaire, on ne peut qu'aménager des nouveaux bâtiments » Avez-vous un autre... Comment pouvez-vous appliquer concrètement ce modèle de décroissance, puisque c'est un programme décroissant, si j'entends bien ce que vous voulez dire?
Alors, en l'occurrence, on ne parle pas de décroissance, ne serait-ce que freiner finalement cet objectif d'attractivité pour pouvoir se donner les moyens de faire en sorte que les Lyonnais aient une qualité de vie suffisante. Ça veut dire qu'on stabilise l'aire urbaine, c'est-à-dire qu'on n'accroît pas la population. Et donc, sur un quartier comme le quartier de Gerland, puisque vous le prenez en exemple, c'est de dire qu'on ne construit plus à tout va. On est sur une urbanisation galopante à Gerland. Le quartier, en 20 ans, il faut se figurer quand même les chiffres, a doublé de 20 000 à 40 000 habitants. Au prix, alors d'une certaine manière... Déjà d'une envolée des prix, c'est ce qu'on a constaté, plus 50% en 10 ans quasiment. D'une forme de banalité urbaine, vous avez Michel Lussault que vous connaissez qui parle de mutilation urbaine à Gerland. Alors...
T'es Michel Lussault comme ça, ici à tout va, c'est pas du jeu. Il a des oreilles partout, il va nous entendre. Bon, on comprend que Bozetti veut ici se faire l'ennemi des grands investisseurs urbains, mais son programme ressemble pour l'instant, quand je le questionne, à un ensemble d'ébauches, dans le cas bien particulier du 7e arrondissement. Dans le tas, on peut quand même mentionner la promesse de mettre en place le développement accru de crèches, une taxation renforcée des logements vacants et des logements meublés touristiques de type Airbnb, ou un moratoire citoyen proposé sur le secteur de Mazagran, ou enfin la piétonnisation de la partie nord de la rue de Marseille dans le quartier de la Guillotière. Et j'ai beau être tatillon sur le fait que Laurent Bozetti cite Lussault, il est quand même clairement indiqué sur son programme que le droit à la ville, concept fondateur en géographie critique urbaine, l'a inspiré pour développer son programme.
Le service en proximité, là où certains pensent que c'est les grands projets qui font la ville, nous, notre projet, notre grand projet à nous, ce sera le quotidien.
Alors c'est très bien, mais on est toujours un peu confus en tant que voteur, parce que depuis les dernières élections municipales,
oui, ce que mon interlocuteur évite soigneusement de dire pendant notre entretien, c'est que depuis les dernières élections municipales, eh bien la gauche, ou bien peut-être l'ensemble de ceux qui se réclament de gauche, a tout simplement implosé à Lyon. Le GRAM, mouvement de Nathalie Perrin-Gilbert, qui a été dont le cofondateur Monsieur Père a fait scission. Il y a quelques années, Père est maintenant à tête de liste d'une liste composée du PS, du PCF, de Génération, de Place Publique et de Nouvelle Donne. Quant à Grégory Doucet,
candidat tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, lui aussi était proche de Nathalie Perrin-Gilbert et du candidat du PS. On se rend compte que désormais, la gauche a tout simplement, est tout simplement en morceaux. Et on se pose bien une question, c'est celle de qui va réussir à remporter une mairie, ne serait-ce qu'une seule mairie
communale. Et puis, il y avait une deuxième question que vous avez posée, c'était la question de la scission au sein du Gramme de Renaud Père qui a souhaité quitter le Gramme. Je pense qu'il y avait une divergence de fond entre les deux qui est apparue dans le temps. Et elle se confirme finalement, j'ai envie de dire à l'usage, puisque Renaud Père part aujourd'hui finalement avec le Parti Socialiste. Parti Socialiste que Nathalie Perrin-Gilbert a historiquement quitté pour une dérive.
Historiquement, c'était il y a 7 ans quand même. C'est pas si longtemps que ça.
Mais c'était justement à un moment donné où le PS avalait un certain nombre de couleuvres au niveau local. Alors peut-être aussi impulsé par Gérard Collomb à ce moment-là, hein, comme pilote, qui d'ailleurs finalement a naturellement quitté le PS pour se droitiser. Aujourd'hui, je pense que tout le monde en convient avec le positionnement d'En Marche.
Oui, avec En Marche et puis Les Verts qui pointent quand même tous deux à Lyon en tête des sondages autour de 22%. Dominance qui a tout l'air de continuer, mais sans un FN si prégnant puisqu'on est dans une grande ville, une dynamique amorcée au moment des européennes de mai 2019 de verdissement, en très gros guillemets, puisque dans de nombreuses villes, comme Paris, ce sont des alliances vert-centre qui ont l'air de s'engendrer. Bref, pour l'instant, le point commun entre Nathalie Perrin-Gilbert et Renaud Père, c'est qu'il y a Père dans leur nom de famille, prophétie qui a tout l'air d'avoir des chances de se réaliser à Lyon, même si on ne leur souhaite pas.
Journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.
Et à 20h19, il est l'heure de faire une petite revue de presse, un tout petit point pour parcourir les unes des journaux. En l'absence de Marie, ça va être rapide, mais on va essayer de faire ça bien.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et la revue de presse, on la commence aussi avec les municipales, puisque dans le Figaro, elle se prépare à la une. Le gros titre, c'est l'écologie au cœur de la bataille des municipales. Pour Libé et Le Monde, la une est plutôt consacrée au plan de Trump pour la paix au Moyen-Orient. Pour Le Monde, le plan de Trump donne carte blanche à Israël, tandis que pour Libé, toujours friande de jeux de mots, il ne s'agit plus de paix, mais d'une plaie, et celle-ci est durable, selon l'avis du quotidien. En effet, à l'intérieur des pages, les dessins du président des États-Unis sont dévoilés, son plan de paix est ultra favorable aux Israéliens, et il apparaît comme le déclencheur d'une annexion imminente des territoires palestiniens par l'État hébreu. Il s'agit d'un véritable coup de force contre le droit international pour Jean-Paul Chalagnolo, spécialiste du Moyen-Orient, dont l'interview apparaît en deuxième page du quotidien. La Une du Monde consacre également un gros titre à un autre virus politique, le déjà célèbre coronavirus qui secoue la Chine. Et Le Monde nous apprend que le gouvernement chinois a fait pression sur l'OMS pour que celle-ci ne proclame pas l'urgence de santé publique de portée internationale, alors même que la moitié des membres du comité d'urgence de l'OMS y étaient pourtant favorables. C'est une Chine qui apparaît crispée également à la une du Figaro, puisque la photo choisie indique en légende que le pays de Xi Jinping voit d'un mauvais œil le départ des ressortissants étrangers. Le Canard, lui, pour commenter ce fameux coronavirus, fait le choix de poser la question « Peut-on rire de tout ?» Je vous laisse comprendre le jeu de mots qui s'y cache. Et puis lorsque l'on reprend Libé entre les mains, c'est du métamédiatique dans ses pages aujourd'hui. En effet, il y a un retour sur cette fameuse médiatisation de l'explication de François Fillon, avec notamment son interview ce soir par Léa Salamé sur France 2, un mois avant l'ouverture de son procès. Une opération hyper médiatique qui est dite très controversée au sein même du camp républicain. On se pose surtout la question de savoir pourquoi tant de visibilité jusqu'à en faire en titre de une sur la version de l'histoire de l'ancien candidat à la présidentielle. La une de Libé n'est toutefois pas aussi morose que cette version de l'ancien candidat, puisque Libé s'est mise aux couleurs d'Angoulême et du Festival de la bande dessinée pour ce numéro. Chaque sujet du journal est alors illustré de petites planches qui agrémentent le quotidien et l'illustrent, souvent avec humour. Dans le Monde également, on parle de bande dessinée et d'Angoulême dans le journal d'aujourd'hui. Il y a un petit encart sous les gros titres, mais l'ambiance paraît plus électrique entre les éditeurs et les auteurs au sein des articles écrits par Le Monde, en cause notamment la surproduction qui mine le secteur. Et d'Angoulême, on retiendra également cette photo intrigante qui a suscité la surprise des médias avec l'auteur de bande dessinée Jules qui a offert au président Emmanuel Macron un t-shirt sur lequel était indiqué LBD 2020 et un dessin de quelqu'un déborgné. Voilà, c'est tout pour la revue de presse ce soir et on passe tout de suite à l'édito politique avec Adèle.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Tu vas nous parler de la situation dans les prisons françaises.
Et oui Mathilde, parce que comme tu l'as sans doute vu dans les journaux ce matin, ce jeudi 30 janvier, la Cour européenne des droits de l'homme a publié un arrêt qui énonce que les autorités françaises doivent mettre fin aux problèmes de surpopulation dans les prisons et aux conditions de détention dégradantes. Cet arrêt fait suite aux successives saisies de la Cour par 32 détenus français entre 2015 et 2017. Il dénonce notamment la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit les traitements inhumains et dégradants.
Je t'arrête, c'est quoi cette convention ?
Alors, oui, c'est vrai que le Conseil de l'Europe, on n'en entend pas trop parler. On le confond souvent avec l'Union européenne et toutes les institutions qui vont avec. Le Conseil de l'Europe, en réalité, il est plus ancien que l'Union européenne. Il compte 47 membres et donc s'étend bien au-delà des pays européens puisqu'il en compte une vingtaine de plus que l'Union européenne, par exemple. Et notamment la Russie, la Turquie et des pays assez controversés. Alors, l'avantage, c'est que la Convention européenne des droits de l'homme, qui émane directement du Conseil de l'Europe, a pour vocation de promouvoir les droits fondamentaux de l'Union européenne, les droits fondamentaux des individus et des libertés. L'avantage de cette Cour, contrairement à ses consoeurs, les institutions juridiques internationales comme la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour pénale internationale, qui ont seulement vocation à dealer des problèmes entre les États, eh bien, l'avantage de cette Cour, c'est qu'elle peut être saisie par les individus. C'est exactement ce qui s'est produit dans ce cas, puisque ce sont donc 32 détenus français qui, entre 2015 et 2017, ont pu saisir la Cour pour se plaindre de leurs conditions de vie dégradantes et dégradées.
Et qu'est-ce qu'on entend exactement par traitement inhumain ou dégradant ?
Alors, les détenus ici dénoncent essentiellement la surpopulation dans les prisons. Aujourd'hui, on estime, enfin la Cour européenne des droits de l'homme le fait, qu'on est à un ratio de 116 détenus pour 100 places en prison. Mais ça, ce n'est qu'une moyenne, puisque, toujours selon la CEDH, ce taux va même jusqu'à 230% au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique. Alors, sont aussi en jeu des questions de manque de personnel et d'insalubrité des cellules. C'est pas la première fois que la France est interpellée par des organismes internationaux. En 2016 déjà, l'Observatoire international des prisons avait assigné l'État français en justice afin qu'il prenne en charge une invasion massive de rongeurs et de cafards à la prison de Fresnes. Alors ce qui est en jeu ici, c'est aussi l'incapacité des détenus de faire des recours directement en France, notamment au Conseil d'État, pour remettre en cause leur détention. Pour le Conseil d'État, leurs revendications sont jugées irrecevables puisque les juges administratifs dont il a la charge ne sont pas compétents pour se prononcer sur les conditions de détention. Autrement dit, en France, la justice française ne peut rien pour la condition des détenus.
Et cet arrêt sera vraiment efficace pour changer les choses ?
Alors non, certainement pas, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a seulement recommandé à la France d'agir. Bon, le point positif, c'est que dans son communiqué, elle lui intime de prendre des mesures structurelles. Au moins, ça signifie qu'elle entend qu'il y a un problème global dans la gestion des prisons françaises et elle reconnaît qu'il ne s'agit pas que d'incidents isolés et de faits divers qui seraient issus d'abus ou de négligences ponctuelles. Il s'agit bien d'un problème général et il faut modifier le système carcéral en profondeur pour y remédier. Le point négatif, c'est que la CEDH, comme la plupart des organisations internationales, est très douée pour fournir des rapports et des recommandations, mais elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte pour les faire appliquer.
Et tout ce que tu nous dis là, c'est qu'en fait, tout ça, ça ne sert à rien.
Alors, Oui et non. Ce à quoi ça sert, c'est que ça permet quand même de rendre justice aux détenus qui ont subi ces conditions de vie dégradées et dégradantes pendant plusieurs années, même si ce n'est que une fois, enfin, même si ce n'est fait que formellement. Ça légitime aussi l'action d'associations qui se battent pour la visibilisation des conditions des détenus et pour la fin des prisons, comme les Génépi. En revanche, rien ne permettra d'améliorer ces conditions de vie tant que la France ne prendra pas de mesures matérielles et financières, non seulement pour mettre fin à la surpopulation des prisons, mais aussi pour réfléchir à de nouvelles manières d'envisager les peines. Aujourd'hui, la seule manière que la France a trouvée pour lutter contre la surpopulation et faire des économies, c'est les prisons à ciel ouvert, c'est-à-dire renvoyer les détenus chez eux avec des bracelets électroniques, ce qui ne permet pas spécialement non plus une meilleure réinsertion.
Merci beaucoup Adèle pour cet éclairage et pour se donner une idée un peu des conditions de vie dans les prisons. Est-ce qu'on peut recommander l'exposition au musée des Confluences qui est actuellement qui a lieu à Lyon en ce
Tout
moment
à fait.
Super.
Pico de l'amplification sur Transistor.
À 20h27, c'est l'heure de passer à l'édito éco et au Green Deal, c'est ça ?
C'est ça, Mathilde.
Alors le 11 décembre dernier, à l'occasion de la COP25, Ursula von der Leyen a présenté les grandes lignes de son fameux Green Deal européen. Depuis son élection à la présidence de la Commission en juillet dernier, elle affiche en effet une grande ambition écologique, le tout étant de savoir comment cette ambition va se transcrire dans les faits, tournant vers de l'UE ou maquillage politique, action efficace en faveur de l'environnement ou greenwashing. Pour le moment, seuls les grands objectifs sont annoncés, et les moyens pour y arriver sont encore flous. Deux principaux objectifs sont annoncés. Atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et développer les emplois et l'innovation verte. Je vais me concentrer ici sur le premier objectif et notamment sur un des outils potentiels de cette neutralité carbone qui a été mentionné à plusieurs reprises. Je parle bien sûr de la taxe carbone aux frontières. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ? Le principe est simple. Il existe au sein de l'UE un marché du carbone dont le cours est actuellement d'environ 25 euros la tonne. Les entreprises qui produisent et vendent leurs biens en Europe doivent donc payer leurs émissions de CO2 à ce prix. En revanche, ce n'est pas le cas des biens importés, qui sont produits à l'extérieur des frontières européennes et par conséquent sujets à la réglementation en vigueur dans leur pays, qui est souvent bien moins contraignante que celle de l'UE. Spoiler, par exemple en Chine ou aux États-Unis. Cela a deux conséquences néfastes. Premièrement, les entreprises européennes subissent une concurrence entre guillemets déloyale, puisqu'elles payent leurs émissions de carbone à un prix plus fort et doivent donc vendre leur production plus cher. Deuxièmement, et c'est lié, cela encourage les consommateurs européens à acheter des produits davantage nuisibles pour l'environnement, puisqu'en plus d'être importés, ils sont moins taxés et donc moins chers. J'en reviens donc à ce que signifie la mise en place d'une taxe carbone aux frontières, taxer les produits importés au niveau du prix du marché européen pour qu'ils soient soumis aux mêmes règles environnementales. Cela aurait pour conséquence directe d'augmenter les coûts des productions consommatrices de CO2 des entreprises étrangères, et donc le prix de nombreux biens, comme les métaux ou l'électroménager chinois.
Et est-ce que les Chinois ils vont se laisser faire ?
Nouveau spoiler, non. Cette forme de protectionnisme vert, qui entre nous devrait être une des missions majeures de l'Union européenne, a déjà été dénoncée par les Chinois, mais aussi par les Américains qui menacent l'UE de représailles commerciales en cas d'application d'une telle taxe. Outre les tensions qui résulteraient de sa mise en place, le problème majeur pour l'UE est qu'une taxe carbone aux frontières, si elle est considérée comme du protectionnisme, contrevient aux accords de libre-échange de l'Organisation mondiale du commerce. Ainsi, il est probable que pour se montrer digne des ambitions vertes de sa nouvelle présidente de la Commission, l'UE doivent se résigner à enterrer sa doctrine libre-échangiste qui prévaut depuis plusieurs décennies.
Autrement dit, nous ne sommes pas prêts de la voir advenir, cette taxe. Et si jamais elle était mise en place, est-ce vraiment un bon outil ? Je veux dire, les gilets jaunes sont dans la contestation d'une telle taxe.
Alors en effet, l'élément déclencheur des gilets jaunes fut la mise en place de la taxe carbone par le gouvernement français. Cependant, cette taxe carbone aux frontières possède une différence importante et majeure avec son avatar français, bien qu'elle en soit inspirée. D'après une étude de l'OFCE, cette taxe n'aurait que peu d'impact sur les ménages français. En effet, la consommation d'énergie, sur laquelle portait la taxe française, ne dépend que très peu du prix. En langage économique, on dit que l'élasticité prix de l'énergie est faible, ce qui signifie tout simplement que quel que soit le prix de l'énergie, vous en avez besoin et donc vous en consommez. Au contraire, la taxe européenne porte sur des produits pour lesquels il existe des substituts. Ainsi, la capacité des ménages à modifier leur mode de consommation est bien plus importante, et leur pouvoir d'achat n'en sera que très peu affecté. De plus, les effets favorables au climat de cette taxe sont aussi plus importants. L'incitation à moins consommer de produits polluants fonctionne bien mieux dans la nouvelle formule européenne que dans sa version initiale française. Pour conclure, il existe à mes yeux deux principaux défauts de la taxe carbone aux frontières telle qu'elle est pensée pour le moment. Déjà, son efficacité. On l'a vu, elle sera plus efficace que la taxe carbone française. Pour autant, est-ce à dire qu'elle sera suffisamment efficace et suffisamment rapidement pour lutter contre le changement climatique ? On peut en douter, puisque le prix de la tonne de carbone sur le marché européen, sur lequel devrait être alignée la taxe, reste trop faible pour réellement réduire les émissions de carbone. Enfin, et j'apporte ici l'éclairage d'un excellent article de Mireille Chérolieu à Souline, datant de 2015, dans lequel elle montre comment allier fiscalité environnementale et justice sociale pour favoriser l'acceptation d'une taxe carbone. Il faudrait redistribuer aux ménages les montants perçus sous la forme d'une redevance carbone. Ursula von der Leyen n'a pour le moment jamais évoqué ce sujet, il serait donc temps qu'elle se mette à écouter Transistor.
Ça, c'est une sacrément bonne idée. Merci. Et il est 20h32, c'est l'heure d'En Sueur.
Un entraîneur, ça doit être entraînant.
Oui, mais là, ça pique.
Respectez ! Pas faire de faute ! Pas faire de faute !
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud !
La traverse.
Cible ! Go !
Et pour commencer, des nouvelles peu réjouissantes qui nous proviennent du monde du patinage artistique et des violences sexuelles commises par des entraîneurs sur des jeunes sportifs de haut niveau dans les années 80. Dans une enquête menée par le journal L'Équipe, Hélène Godard, Anne Brunto et Béatrice Dumur accusent leurs anciens entraîneurs d'agressions sexuelles et de viols et brisent un tabou depuis de plus de 30 ans. Elles témoignent également d'une omerta générale qui les a empêchés de parler et qui fait que les faits sont désormais proscrits. Une omerta qui semble d'ailleurs ne pas être le cas du seul patinage artistique, puisque plusieurs affaires impliquant des entraîneurs de très haut niveau ont déjà éclaté dans d'autres sports et ont eu peu de répercussions au sein des fédérations nationales.
C'est un effet peu réjouissant. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles dans le haut niveau français ?
Alors, pas pour l'instant, mais on espère pour ce week-end avec le retour du tournoi des 6 nations en rugby. Et on ne commence pas par un match anodin, puisque les équipes de France seront opposées aux 15 de la Rose, à la perfide Albion, à Dietrich, enfin aux inventeurs du fair play. Enfin bref, nos ennemis jurés. Pour le 15 masculin, ça sera l'occasion du premier match du nouveau sélectionneur qui a été nommé après la débâcle de la Coupe du Monde. Et pour le 15 féminin, il s'agit de reconquérir le titre acquis en 2018 après celui de 2016. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez voir la France gagner, c'est à 13h30 sur France 2, à 16h ça sera autre chose. Et si vous voulez vraiment vous ennuyer ce week-end, il y aura également la finale de l'Open Australien tennis avec un duel entre Novak Djokovic qui vient d'éliminer le vétéran Roger Federer et le vainqueur du duel entre l'Autrichien Dominic Thiem et l'Allemand Alexander Zverev.
Et qu'est-ce qu'on fait si jamais on s'ennuie ce dimanche-là mais qu'on n'est pas trop tennis ?
Alors, j'ai un autre sport sous la main, ça se rapproche un peu du tennis et parce que ça s'appelle le junis. Alors, le junis, c'est, vous l'aurez compris, un sport qui se joue dans un dojo, raquette en main, et qui consiste à faire passer son adversaire par-dessus le filet tout en restant dans les limites du terrain. Alors, sport difficile, me direz-vous, car oui, il est parfois difficile de lancer les gens. C'est pourquoi vous disposez d'une raquette spéciale avec un tamis très large et une élasticité, on y revient, remarquable, qui vous permet de propulser votre adversaire. Pour le comptage des points, en revanche, comme pour le tennis, c'est une invention d'anglais, donc personne n'y comprendra jamais rien.
Merci. À ne pas reproduire chez soi, il faut préciser quand même.
Ça dépend.
On part en Italie parce qu'il est 20h35 et c'est l'heure de retrouver Clément.
Vous êtes à l'écoute du journal radiophonique amplifié sur Transistor, radio conçue comme son propre fondement, jusqu'à 20h30.
Le vent siffle, la tempête hurle. Nos chaussures sont cassées et pourtant il faut aller conquérir notre printemps rouge où se lève le soleil de l'avenir. Chanson emblématique de la résistance italienne, écrite et chantée pour la première fois à la fin de l'année 1943 dans les maquis de Ligurie. Quelques mois après le débarquement allié en Sicile, je suis...
Bella Ciao ?
Eh non, ça aurait été trop facile. Bella Ciao, ça a été écrit plus tard, et la chanson dont je parle, c'est Fischia il vento de Felice Cascione, interprétée sur l'air du chant populaire russe Katusha. On écoute.
Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare. Conquistare la rossa primavera, dove sono?
C'est une chanson qui est assez méconnue en France par rapport à Bella Ciao, on l'entend assez peu. Et pourtant, c'est la première vraie chanson partisane. Dans les maquis, avant, on chantait bien des chansons plus classiques du mouvement socialiste ou communiste, l'International, Bandiera Rossa. Mais il n'y a pas à proprement parler tout de suite de chant partisan. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Fisca il Vento. Donc Katyusha, en Russie, ça a été diffusé à partir de 1938. C'est un succès populaire, mondial. Et donc en 1943, l'auteur, qui est un jeune médecin, qui est communiste, qui a 25 ans, il est né, il a grandi sur la côte Ligure, il a étudié à Gênes, à Rome, à Bologne, où il a pris sa carte au Parti communiste. Et puis il revient dans sa région d'origine, il s'engage dans les maquis. En 1943, c'est l'année du débarquement en Sicile, c'est l'année où le roi démet Mussolini de ses fonctions pour pouvoir négocier avec les alliés. C'est l'année où Mussolini installe sa République sociale italienne dans le nord de la péninsule pour se protéger de la remontée des Anglais et des Américains avec les nazis. Et du coup, c'est en 1943 que les maquis se développent le plus contre la présence allemande et pour faciliter l'avancée alliée. Et l'influence communiste est forte, notamment dans les brigades Garibaldi qui feront de notre chanson leur hymne.
Et alors, dis-nous tout, elle parle de quoi cette chanson ?
Mais c'est la célébration de la vie d'un partisan, des épreuves qu'il traverse pour conquérir le printemps rouge, pour mettre à bas le fascisme et pour construire la société communiste. C'est la célébration de l'action militante dans ses difficultés, dans ses succès. C'est donc dans le contexte où elle est écrite une chanson de guerre. Je cite « Si nous rencontrons la mort cruelle, une dure vengeance viendra des partisans. Le sort du fasciste vil et traître est déjà sûr. » La chanson a été chantée pour la première fois à Noël 43 et à l'Épiphanie 44 dans un petit village entre la Ligurie et le Piémont. Quelques semaines plus tard, son auteur est fusillé par les nazis et les fascistes. Chico.
Merci pour cette belle découverte, Clément. Et dans les belles découvertes, on a aussi des découvertes radiophoniques. Et on va parler radio avec Rémi, puisque c'est son dernier Onde Courte ce soir.
En tout cas, jusqu'à preuve du contraire.
Onde Courte.
De 36 jours de grève ne doivent pas effacer les formidables succès qui sont les nôtres. Mais avant de revenir sur ces succès, il me semble important, et je pense que vous l'attendez tous, je voudrais commencer par m'exprimer sur le contexte social. Alors ces dernières semaines, aujourd'hui encore, certains présentent, parlent de leurs inquiétudes, inquiétudes pour leur situation individuelle.
Les images et surtout les sons du cœur de Radio France interrompant les vœux de la PDG Sybille Veil le 8 janvier dernier ont fait le tour d'Internet, mais je ne résiste pas au plaisir immense d'écouter encore ce cœur des esclaves recouvrir la voix de la bêtise néolibérale et remplir le studio 104 de la Maison Ronde. Plus belle que jamais dans le contraste saisissant entre la beauté des possibles offerts par une institution unique au monde et la tristesse d'un projet d'économie terrible pour la radio de service public. Ces sons magnifiques et terribles, Charlotte Perry les reprend aussi, entendant le micro à Blandine, membre du chœur, pour son émission Des vies françaises.
On va disparaître, puisqu'on ne sera plus ce pour quoi on est là. Tout simplement, c'est la mort programmée. Et la mort du chœur et d'un certain répertoire. Voilà, au-delà de nous, le chœur de Radio France. Ce moment-là des vœux, on l'a vécu vraiment comme le moment où on témoignait de notre refus de voir ce plan qui casserait en fait les outils et notre mission.
Qu'est-ce qu'il raconte le chant alors, le chœur des esclaves ?
Donc c'est un peuple qui se souvient et qui, par la pensée, résiste et demande d'avoir le courage de supporter ses souffrances et pense à sa patrie perdue. Voilà, donc c'est de circonstance. Et on espère ne pas perdre notre patrie qui est la culture.
Des vies françaises, la petite tranche que l'on a consenti à donner à Charlotte Perry qui se retrouve reléguée le samedi à 23h30 sur France Inter. Je vous la conseille bien sûr, l'émission on ne l'a pas entendue souvent ces derniers temps puisqu'elle était en grève, mais ce sont toujours de très très beaux portraits ici, celui de cette choriste. Alors oui, Radio France est souvent éteinte depuis novembre, mais la radio et la création ne s'arrêtent pas. Au sein du mouvement social, le service est plus que jamais public, le chœur donne des concerts, et les producteurs et techniciens de Radio France créent chaque jour de mobilisation un podtract natif, je cite, pour faire entendre leur voix et celle des luttes. Ça s'intitule Radio Dedans Dehors.
Radio Dedans Dehors, la radio qui dit ce qu'on n'entend pas.
Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes le lundi 25 novembre 2019, premier jour de grève à Radio France. Nous sommes le collectif Radio Dedans Dehors. Et c'est à la fois de dedans et de dehors que nous souhaitons vous parler. Le dedans d'abord, de Radio France, où un plan d'économie de 60 millions d'euros a été annoncé par la direction, qui entraînerait, s'il était appliqué, la suppression de 300 postes dans tous les corps de métier. Des agents d'accueil aux réalisatrices, réalisateurs, entre autres, dégradant ainsi la qualité des programmes et contribuant à créer une atmosphère délétère au sein de l'entreprise. Le dehors ensuite. Hôpitaux, éducation nationale, transport, justice, tous les services publics sont en danger. Ne rentrons pas en concurrence. Refusons d'être rentables. Le service public n'a pas vocation à être rentable. Soyons dedans et dehors ensemble. La radio de service public se doit de faire entendre les voix de celles et ceux qui font société. Alors si vous en avez marre de la playlist de grève, et à défaut de pouvoir se saisir de l'antenne pour nous adresser directement à vous, prêtez l'oreille à ce premier podcast, afin d'entendre le dedans du dehors, et vice-versa.
Est-ce que les deux autres micros sont dans l'AG pour que...
Et alors que Sybille Veil a longtemps affiché une posture inflexible soutenue en cela par le très absent ministre de la Culture Franck Riester, le mouvement finit peu à peu par commencer à payer après 56 jours de grève, un record absolu pour la maison, puisque la direction a proposé vendredi dernier de remplacer le plan de départ volontaire par une rupture conventionnelle collective. Une proposition technique qui ne serait pourtant pas sans conséquences. Elle permettrait, en gros, de limiter les suppressions de postes en remplaçant des personnels plus âgés par des recrutements plus jeunes, plutôt que de tout simplement supprimer les postes. Par ailleurs, une rupture conventionnelle suppose un accord des organisations syndicales sur les conditions du départ. Les syndicats qui restent très méfiants, après 2 mois sans aucun dialogue, ont néanmoins accepté de se rendre aux négociations. La CGT ne croit pas, je cite, que cette négociation aboutira à un accord acceptable, fin de citation, et ajoute que le plan initial, dont l'abandon a été annoncé un peu vite par la presse, reste suspendu comme une épée de Damoclès au-dessus des négociations qui s'annoncent particulièrement âpres. En attendant, la radio de service public est toujours bel et bien debout et ses auditeurs à ses côtés. Je rappelle d'ailleurs qu'une cagnotte permet de soutenir les grévistes et sera en ligne sur la page de l'émission. En espérant que vive encore longtemps Radio France telle que nous l'aimons, malgré les réformateurs technocrates que Daniel Mermet décrivait en son temps comme des médiocres dans la vallée fertile.
Donc qui est pour la reconduction de la grève contre le projet stratégique de Sybille Veil et ses conséquences sociales, entre autres les suppressions d'emplois, jusqu'à demain minuit. 23h59 pour ceux qui veulent de la précision. Donc on va voir qui est contre, qui s'abstient et on recompte. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Vous êtes sûr ? Donc par une majorité et 11 abstentions. La grève à Radio France est reconduite ce jour jusqu'à demain minuit. Assemblée générale demain en un lieu à déterminer. À déterminer.
Et on assure bien sûr notre soutien à tout le personnel de Radio France et notre soutien radiophonique. Merci Rémi pour cette chronique et ce point sur la grève. Il est 20h47 et on retrouve Phileas pour notre point science. Et sans transition, on passe au coronavirus. Tu vas enfin nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ce gros virus dont on entend parler dans tous les journaux.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Vous l'avez entendu comme moi, un virus a émergé en Chine et est responsable d'une épidémie terrible qui risque de réduire l'humanité à néant, ces coronavirus. Ebola a bien failli nous avoir en 2014, mais par de promptes mesures de confinement, nous survécûmes in extremis à la catastrophe.
T'en fais pas un peu trop, là ?
Tu trouves ?
Un petit peu, quand même.
Bon. Alors revenons à nos couronnes, si j'ose dire, et faisons un point sur la situation telle qu'elle est en ce moment. Au 16 décembre de feu l'année 2019, la première malade est diagnostiquée. Il semble avoir attrapé la maladie au marché de Huanan. La Chine attendra le 30 décembre pour prévenir l'OMS. Le marché en question est alors fermé au 1er janvier pour des raisons évidentes. La situation a alors évolué progressivement au point qu'au 21 janvier, 15 médecins, infirmiers et aides-soignants étaient affectés par le virus alors que le premier cas était déclaré aux États-Unis le même jour. La Chine décide alors de fermer Huanan, le berceau officiel de la maladie, ainsi qu'une autre grande ville voisine. Jusqu'à aujourd'hui encore, la maladie se répand au compte-gouttes dans une dizaine de pays, mais bien plus intensément en Chine.
Et parle-nous un peu du bilan humain dans cette affaire. Il évolue rapidement ?
Eh bien, ce matin, on comptait environ 7900 infectés, 133 personnes guéries pour 170 décès. Tous chinois. La maladie semble se propager de façon exponentielle en Chine, car parmi toutes les personnes infectées, seule une centaine est disséminée dans différents pays du monde et est surveillée pour endiguer toute propagation. On dénombre ainsi 5 cas isolés en France. Ces informations sont consultables sur une carte actualisée régulièrement sur Internet. Cette dernière, aux allures du jeu Plague Incorporation, montre le nombre de personnes infectées, guéries et mortes par l'infection au coronavirus dans tous les pays du monde.
C'est un peu morbide comme ça, tout mais...
Oui, et d'autant plus qu'on constate un pic de téléchargement du jeu en ce moment. On peut d'ailleurs noter que le didacticiel impose aux joueurs de commencer en Chine. Coïncidence ou mauvais goût, je n'ai pas la réponse.
En tout cas, j'imagine que ce n'est pas un joueur qui a déclenché la maladie. Il vient d'où le virus ?
Alors, on a d'abord jeté le blâme à un serpent vivant en Chine. Il s'est en fait avéré que non. On soupçonne maintenant la consommation de chauves-souris, mais on n'en sait en fait pas vraiment plus à ce stade. La communauté scientifique est mobilisée un peu partout dans le monde pour trouver un remède et un vaccin contre le virus qui provoque un fort état grippal avec pneumonie et insuffisance rénale en sus et potentiellement létal pour les nourrissons et les personnes âgées.
Et le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'est que la Chine a lancé le 24 janvier la construction d'un hôpital appelé Hôpital du Dieu du Feu et non pas Hôpital du Feu de Dieu, comme certains l'auraient compris, donc les travaux devraient s'achever le 3 février. Il semble dans les temps, ce qui est assez incroyable, le gouvernement chinois a donc mobilisé pour cela 39 millions d'euros pour deux hôpitaux. Le premier, en 10 jours, pourra héberger 1000 malades et le second sera livré 2 semaines plus tard, apportant 1300 lits supplémentaires.
Merci Phileas et on espère que cette situation va se résoudre pour que certains puissent retourner en Chine et surtout pour que les Chinois aient moins à craindre de ce coronavirus. Il est 20h50, il est l'heure de passer à la musique avec toi Nathan.
Merci, alors pour commencer, laisse-moi te conter une petite histoire Mathilde. Alors ce samedi, Breakbot est l'invité du petit salon. Mais avant de venir faire remuer les parterres lyonnais, le DJ a été en charge d'animer un début de match entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Alors remettons-nous en contexte, on est dans l'antre parisienne, c'est ce moment un peu flottant d'avant-match. Là où les plus fervents supporters accrochent leur banderole, En bas, les joueurs s'échauffent et devant la buvette, les premières bières sont distribuées. Et Breakbot est chargé d'ambiancer tout ça. Et parmi les milliards de chansons existantes, devine laquelle il choisit. Jump de Van Halen, qui en plus d'être célèbre pour ses terribles accords de synthé, l'est aussi pour être la musique avec laquelle les joueurs de l'OM entrent habituellement sur la pelouse au stade Vélodrome. Quel génie! Il a mis un hymne aux Marseillais au Parc des Princes. Alors évidemment, bronca est sifflée dans le stade, les ultras se déchaînent et l'incendie sur les réseaux. Heureusement que les experts du football sont là pour apaiser le tout et se montrer compréhensifs.
C'est la dernière fois qu'il vient au parc.
Ouais, je pense.
En tout cas, c'était pas spécialiste du foot. Hein, parce que c'est quand même connu dans le foot.
C'est clair. Encore.
Voilà.
Sympa, quoi.
Quelle bourde, mais soyons indulgents, on ne l'aime pas pour sa connaissance du foot. Allez, musicienne numéro 26, c'est mieux que les Grammys.
Ou je vais dire des trucs simples.
Chers auditeurs, chères auditrices, êtes-vous prêts pour une séquence nostalgie? Puisque l'on repart dans cette époque formidable où porter une veste sans chemise c'était cool, où avoir une moustache de la taille de votre avant-bras était branché, Edoui Plenel aurait été tellement sexy, et surtout une époque où l'on pouvait porter des pantalons pas de def, à la fois trop serrés au niveau des cuisses, mais l'on pouvait rentrer trois obliques au niveau des chevilles, j'ai nommé les années 70. Ah, les années funk, qui commencent en réalité dans les années 60 et atteignent véritablement leur pic de popularité et de créativité dans les années 70, avant de décliner dans les années 80. Que c'est beau! Je sens depuis mon année 2020 les remontées acides et je meurs d'y faire un bon bateau, Mathilde.
Je sais pas trop.
Bien, laisse-moi te convaincre, puisque samedi nous aurons comme annoncé les Frenchies les plus funk des 5 dernières années. J'ai nommé le duo Breakbot et Irfan. Pour rappel, Breakbot c'est ça. Oh le criminel, j'ai coupé ses souvenirs d'écolier. Et oh, Breakbot et Irfan ne sont pas morts en 2010. Alors, je sais ce que vous dites secrètement. Breakbot, ok, je vois, mais pourquoi il rajoute Irfan à chaque fin de phrase? Alors Breakbot est le producteur, celui qui fait donc les instrumentales, tandis qu'Irfan est l'auteur et interprète des paroles toujours plus sensuelles et qui crée à qui veut l'entendre « Baby, I'm yours ». Alors parfois le duo collabore tout le chemin de la construction de l'album, comme pour le très bon Stillwater, sorti en 2016, et parfois Breakbot s'autorise des sorties solo avec l'encore meilleur Another You en 2018, mais sans oublier les copains, puisqu'Irfan vient ponctuer le douce titre de sa douce voix. Samedi soir, nous aurons sûrement le droit à un mix des samples disco-funk préférés de Breakbot, qui sera pour certains d'entre nous une première piste d'entrée dans ce qui fut l'un des genres les plus créatifs durant trois décennies et qui a vu cesser des grands noms comme Miles Davis, dont l'album le plus funk Rubber Band est sorti inespérément l'année dernière. À l'écouter, c'est vraiment bien. Et vu d'autres grands noms comme Kool & The Gang ou encore le King of Pop, Michael Jackson. Au moins par curiosité, venez samedi soir écouter le passage de Breakbot dont on va écouter un extrait d'un de ses mix. Breakbot et Irfan, c'est au petit salon à 23h45 et à partir de 13€.
C'est noté. Et pour la suite?
Alors changeons de continent, mais gardons cette vibe dansante avec un autre style très influent depuis 4 ans. C'est bien que bon gré mal gré, vous l'avez certainement déjà entendu, tant de nombreux artistes de la scène occidentale s'en sont inspirés. Alors pour certains, ce sera lié à MHD. Pour d'autres, ce sera le tube de One Dance de Drake qui se viendra en premier à l'esprit. Qu'importe, puisque l'afrobeat rythme nos soirées depuis déjà 4 ans et peut-être rythmeront-elles votre lundi avec la présence de Burna Boy dans notre ville lumière.
It's Kelpie Vibes.
Angelina, you dey cool my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never.
Dans l'afrobeat, il y a différents artistes, différents styles et l'on rassemble souvent sous le nom afrobeat nigérian, celui qui est le plus influent et le plus écouté en Occident, avec en tête d'affiche des artistes comme Wizkid ou ici Burna Boy. Deux artistes qui ont été featés par la presse totalité des grands artistes anglophones, que ce soit Drake ou Georgia Smith, ou pour des références plus camembert, MHD et Dadju, tout le monde s'essaye et se réapproprie la formule, mais les artistes nigériens en restent maîtres. Avec leur guitare aux arpèges désinhibants, et des claps provoquant les sensuels déhanchements de bassin, l'Afrobeat garantit de belles soirées. Rajoutez à ça la voix de Burna Boy entre poèmes amoureux et complaintes engagées, et vous avez le secret d'une sortie musicale réussie. Burna Boy, c'est 4 albums et une progression jusqu'à l'affirmation de son statut de superstar international sur African Giants, un album sorti en juillet dernier qui aura séduit la critique et le public et qui est aujourd'hui le point d'orgue d'une carrière récompensée au BET Awards 2019.
Et quand est-ce qu'on part pour le Nigeria alors ?
Burna Boy, c'est lundi 20 février au Transborder pour 50€. Je sais, ça pique un peu. Alors pour terminer, laissez-moi juste mentionner 2 concerts. Le premier de Ninho, qui est l'un des plus grands vendeurs et l'un des plus grands rappeurs de ces 3 dernières années, qui sera, que je retrouve mes notes, à la Halle Tony Garnier le 13 février pour 47€. Et je voudrais ensuite juste mentionner la présence de Oboy, qui est en concert en ce moment même à 2 pas de nous, au Ninkasi Gerland. Et pour clôturer cette chronique, j'en parle parce que, d'une part, je l'aime bien, et surtout parce que on a ici l'illustration parfaite de l'influence de l'Afrobeat dans nos productions, avec en prime une référence au ballon rond pour corriger les erreurs de breakbeat. Toute la boucle est bouclée. Finissons donc sur R10, où en plus d'un rappeur aussi habile avec sa langue que Ronnie Lea avec ses pieds, on peut entendre au début et tout au long de morceaux ces percussions signatures de la musique nigérienne.
On faisait du sale même en CP. J'étais au quartier tout l'été. Bien que le petit pont sur le rinté. On fera du sale, on s'était dit. La peau fera dans la OCB. T'inquiète pas, là-haut, ça sera mieux. Je relance d'air. Peux pas parler au star. Chez nous, on sait, on se tait. Donc, je ne me prononce pas.
Merci beaucoup Nathan pour toutes ces découvertes musicales. Il est 20h58 et c'est le temps de retrouver la culture avec Judith. Bonsoir Judith. Bonsoir. Aujourd'hui, je viens à vous avec un objet culturel qu'il faut s'empresser d'aller voir car il ne va plus durer longtemps. C'est l'exposition Tolkien à la BNF qui s'intitule Voyage en Terre du Milieu et que vous pouvez aller voir jusqu'au 16 février. J'y suis allée en véritable profane, avec pour tout bagage mon visionnage de la trilogie quand j'étais en 3e, ce qui commence sérieusement à dater. Ma participation à la mémoire de Tolkien se réduit à m'écrier « You shall not pass » ou à susurrer « Mon précieux » dès que l'occasion se présente. Autant dire que je suis complètement ignare en comparaison des hordes de fans assidus que l'on peut croiser dans ce type d'exposition, de ceux qui connaissent leur elfique sur le bout des doigts. Toutefois, quelque chose suggérait que je n'étais pas la seule dans ma situation, au vu de l'impressionnante foule qui se trouvait à la BNF par cet après-midi du mois de janvier à peine sorti de l'œuf. Bonne année d'ailleurs.
Ah, bonne année aussi. Mais c'est vrai que tous ces gens ne pouvaient pas être des docteurs en tolkienerie.
Non, en effet. Mais force est de constater que l'exposition n'exige aucune connaissance préalable pour être parcourue avec plaisir et intérêt, étant donné le gigantisme et la dimension totalisante de l'entreprise du maître. Chacun peut y trouver un angle qui lui parle. L'œuvre de Tolkien a littéralement les proportions d'un monde, un monde dont il crée les mesures propres. Les premières salles font état de ces matériaux premiers et nécessaires pour appréhender la suite. En premier lieu, les cartes, détaillées, tracées par Tolkien et perfectionnées au fil du temps, puis les langues, que dis-je, le système linguistique complexe imaginé par l'auteur. De la géographie et du parlage, c'est juste ce qu'il faut pour éveiller la curiosité d'un membre de Transistor.
Après, ce qui met Transistor, c'est aussi plein d'autres trucs. Il y a des actualités, de l'histoire par exemple.
En fait, les langues, c'est avant tout de l'histoire. Tolkien ne s'est pas contenté d'inventer un état d'une langue, sa grammaire et son alphabet, ce qui est déjà pas mal. Il a doté ses créations d'évolutions propres, de métissages qui correspondent à des déplacements géographiques. Bref, il a dessiné l'arbre de ses langues et ses ramifications. Il leur a donné une profondeur historique. Parmi les outils qui sont mis à disposition du spectateur de l'exposition, il y a aussi la chronologie du monde tolkienesque, qui s'étend à l'échelle de plusieurs âges. On peut la retrouver sur le site Tolkien Deal, véritable mine dont la seule table des matières donne le vertige. C'est dans leur profusion que Tolkien adorait les langues. Pour lui, découvrir une nouvelle langue, en apprendre la syntaxe et écouter sa sonorité, c'était comme goûter une pâtisserie. On dit même qu'il n'aurait créé son monde secondaire uniquement que pour donner un cadre et des locuteurs à ses constructions linguistiques, ce qu'on appelle en fait des idéolectes.
Wow, alors là, c'est beaucoup de travail en plus.
Mais c'est ça qui est fascinant dans son œuvre, et que l'exposition, structurée comme un voyage, voire comme une quête, permet d'aborder la notion d'univers mental dans lequel on est immergé. En plus des documents génétiques et des archives, on se promène à travers les illustrations produites par Tolkien lui-même. La bibliothèque fournit en plus des artefacts qui comptent au nombre des inspirations de l'auteur et peuvent aussi constituer une ressource imaginaire pour le lecteur. Il s'agit notamment de l'important corpus de légendes médiévales anglo-saxonnes dont il était spécialiste, françaises et nordiques, au fondement de l'esthétique tolkienesque.
On a un peu l'impression que le travail de Tolkien il s'apparente à une sorte de mythologie.
En effet, et c'est même un peu paradoxal. Tolkien considère qu'il n'y a pas vraiment d'épopée ou de grands récits fondateurs, de récits étiologiques, qui soient propres à l'Angleterre, et il le déplore. C'est pourquoi il entreprend de créer, de toutes pièces, et presque ex nihilo, un tel récit. Alors qu'on sait que la légitimité de ce type de récit, proche de la légende, réside le plus souvent dans son ancienneté, voire dans son immémorialité, c'est-à-dire la coïncidence de son émergence avec un temps des origines. D'où la volonté de donner à son œuvre la profondeur d'un voyage dans le temps, et aussi de la doter de marques concrètes, des objets, des reliques, comme autant de racines du mythe dans l'imaginaire national. Ce projet de création d'une légende nationale participe de son rejet face à l'Angleterre moderne et industrialisée. Dans le monde qu'il crée, il donne un rôle principal à la nature. Cependant, il n'érige pas juste un système qui correspond à ses vues personnelles, mais il trace les contours d'un monde entier, complet et pluridimensionnel avec des valeurs nuancées et des antagonismes. Tolkien est ému par la volonté de donner à l'Angleterre un mythe vivant, selon la formule de Mircea Eliade, c'est-à-dire une histoire à laquelle on souscrit pour de bon, qui nous raconte nos origines et qui se situe dans un temps primordial et antérieur.
Il voulait écrire un mythe auquel on croirait véritablement et il pensait vraiment que c'était possible.
En fait, il y a chez Tolkien un fort engagement en faveur de la nécessité de croire aux contes de fées, un thème qu'il développe notamment dans sa célèbre conférence du conte de fées de 1939. Selon lui, les contes sont pour tout le monde, et pas que pour les enfants. Ils sont indispensables en ce qu'ils nous permettent une salutaire évasion, pas celle du déserteur, dans un monde secondaire et qui nous procure de la joie. Lorsque ses enfants étaient petits, Tolkien écrivait pour eux des lettres qui étaient censées venir du Père Noël en personne et dans lesquelles il leur racontait son quotidien, à grand renfort d'illustrations. On ne peut voir ces lettres à la fin de l'exposition sans s'émerveiller intérieurement à la pensée des enfants réjouis recevant des lettres d'un Père Noël dont ils se fichent éperdument s'il existe ou pas, puisque eux peuvent s'évader avec ces histoires avant de retrouver leur propre père. On croit alors avec Tolkien en la puissance de l'évasion dans l'imagination, conçue comme une véritable création. Pressez-vous à la BNF pour visiter la Terre du Milieu et tout ce qu'il y a autour.
Merci Judith, c'est bien noté, on ira faire ce voyage en Terre du Milieu. Il est 21h04. C'est la fin du GRA du 30 janvier 2020. Aujourd'hui, il y avait Rémi Cerda, Victor Andrade, Nicolas Sendé, Phileas Larcher, Nathan Vira, Adèle Domas, Elliot Moine et Clément Louis. À la régie, c'était Arthur Kramer et on remercie également UNS Média pour son soutien technique. Le GRA, c'est une émission coordonnée par Mathilde Picard et le prochain GRA, vous le retrouvez soit le 13 février, soit le 14 février. Restez connectés à tous les médias sur lesquels est Transistor pour connaître la véritable date. À très vite !